PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repentie et chasseuse de talent depuis plus de 7 ans.
Et je suis Nathanaël, chasseur de talent depuis la nuit des temps.
Notre engagement, une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
Ce podcast vous est proposé par Haussmann Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub.
Aujourd'hui, nous recevons Grégoire Schwebing, fondateur d'Africa Works, premier réseau de corporate coworking sur le continent africain.
Présent dans 7 pays d'Afrique, Africa Works connaît une croissance à 3 chiffres en répondant aux besoins immobiliers des startups locales comme des multinationales telles que L'Oréal, IBM ou Volkswagen.
Ce développement repose sur une croissance de 20% par an du marché immobilier commercial en Afrique.
Avec son équipe de 100 collaborateurs recrutés localement, Grégoire ouvre de nouveaux pays,
développe des contrats de management avec les propriétaires,
crée une activité complémentaire de co-living pour les expats
et va graduellement devenir propriétaire d'une partie de ses immeubles.
Africa Work, un aménagement de bureaux qui réunit le meilleur de l'Afrique et de l'Europe.
Bonne écoute les amis. Bonjour Grégoire, peux-tu nous présenter ta PropTech, son nom, ce qu'elle fait ?
Bonjour Magali, merci de m'avoir invité. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Africa Works. On est le leader des espaces de coworking en Afrique. On est présent dans 8 villes à travers le continent et 7 pays.
Et pourquoi l'Afrique ?
Alors à titre personnel, j'ai un long atavisme familial avec l'Afrique. Je suis la quatrième génération de ma famille entrepreneur en Afrique. Et là où la plupart de mes amis, quand on était au collège, allaient voir visiter leur famille dans quelques belles régions de France, moi, j'allais au Sénégal, où ma famille a son ancrage. Et on allait très souvent en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, j'ai un long lien, je dirais, familial avec l'Afrique. Par ailleurs, j'ai vécu moi-même 8 ans de l'autre côté du continent, à Nairobi, au Kenya. Et ma femme est britanno-nigériane et le siège de mon entreprise est au Cap. Donc, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale ou l'Afrique australe, j'ai un lien direct ou indirect avec chacun de ces parties du continent.
Merci Greg. Je t'appellerai Greg, moi, pour ma part. Pourquoi le coworking en Afrique ? D'où est venue cette idée saugrenue ?
Bah, écoute, c'est une très bonne question qu'on pose d'ailleurs assez souvent. J'ai créé une première entreprise qui faisait de l'aménagement d'intérieur, notamment pour des grandes entreprises. J'ai créé cette activité quand je vivais en 2014 à Nairobi, au Kenya. Et puis après, j'ai essaimé un petit peu cette entreprise-là à travers l'Afrique. Et en fait, je me suis aperçu, en parlant essentiellement avec des grands groupes internationaux, je me suis aperçu de quelques grandes tendances. La première grande tendance, c'est l'établissement de ces grands groupes internationaux en Afrique, qui est un phénomène assez récent. Pour donner quelques chiffres, dans les entreprises Fortune 500, il y en avait au début des années 2010 une centaine sur les 500 présentes en Afrique. En 2022, il y en avait à peu près 400. Donc, il y a vraiment une émergence, multipliée par 4 le nombre de grands groupes internationaux présents en Afrique. Donc, ça, c'est la première tendance que j'avais identifiée. La deuxième tendance, c'est que fondamentalement, ces grands groupes internationaux viennent en Afrique avec généralement des petits bureaux, des bureaux de représentation, des bureaux de business développement, des bureaux commerciaux. Et donc finalement, là où c'est une tendance mondiale liée à la flexibilité, c'est un produit qui répond encore mieux aux réalités africaines, dans la mesure où il y a une volonté généralement d'avoir des petites équipes avec une vraie agilité dans des économies qui sont avec des très fortes croissances, mais aussi un certain risque, de pouvoir réajuster à la hausse et à la baisse ses effectifs. Et donc, dans ce contexte de flexibilité mondiale, c'est un produit qui répond encore mieux aux réalités africaines. Et donc, comme j'avais identifié ce besoin-là à travers mes clients et qu'il n'y avait pas d'acteurs panafricains de qualité qui pouvaient répondre justement aux besoins de ces grands groupes, c'est dans ce cadre-là que je me suis lancé en 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Et qui sont tes clients ? Alors, des grands groupes internationaux, tu peux nous en citer quelques-uns, tous secteurs confondus ?
Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 clients corporate, dont la moitié, à peu près, sont des grands groupes internationaux. Donc, pour vous en citer, on travaille avec L'Oréal, Airbnb, TikTok, IBM, General Electric, BASF, etc., etc. La liste peut être très longue. Donc, ces grands groupes internationaux représentent à peu près la moitié de nos clients. Un quart de nos clients sont généralement des PME locales, souvent dans le cadre des services, donc cabinet d'avocats, agences digitales, etc. Et le dernier quart sont généralement des startups africaines à très forte croissance, généralement dans le secteur des fintechs, qui ont levé un paquet conséquent d'argent et qui ont souvent un play panafricain. Donc, elles sont généralement originaires d'un pays, c'est généralement soit du Nigeria, soit de l'Afrique du Sud, mais dont la promesse de croissance est souvent une expansion panafricaine. Et donc, en fait, on répond à leurs besoins en devenant leur partenaire à travers tous les pays. Et donc, ils ont une interaction avec un seul fournisseur d'immobilier qui sommes Africa Works.
Ok, et est-ce qu'il y a un modèle africain du coworking? Qu'est-ce qui distingue un opérateur de coworking en Afrique d'un opérateur de coworking en France ou en Europe, sachant que tu traites les mêmes clients internationaux?
Non, je dirais que les besoins sont très similaires. Alors nous, on utilise le mot de coworking. La réalité, c'est qu'on est plus dans du corporate coworking. Donc, on n'adresse pas un besoin. Il n'y a pas des espaces ouverts.
C'est pas deux jours, c'est une semaine, un mois.
Oui, alors la grande différence, c'est justement sur la durée d'engagement. Donc, le besoin de flexibilité, il est plus dans la capacité à la modularité des équipes. D'accord. Plutôt que l'engagement du temps. Alors, ça va dépendre des marchés. Il y a 54 pays en Afrique, donc c'est un peu dur d'avoir une seule et même règle. Mais généralement, les durées d'engagement sont assez longues. Donc nous, par exemple, dans notre modèle, on n'est pas... Le minimum d'engagement, c'est 12 mois. Et la durée moyenne de nos contrats, c'est 18 mois. Donc, on est sur, finalement, des engagements de moyen terme. En revanche, après, sur les besoins, il y a un besoin plus d'espace privatif. Ça, c'est assez important pour des questions de confidentialité, aussi des questions de culture sociétale, mais aussi de culture d'entreprise et des équipes en Afrique. Donc, nous, on est sur un modèle avec essentiellement beaucoup de bureaux privatifs et moins d'espace en open space où voilà, on s'adresse vraiment à cette demande-là. Donc, le produit est très légèrement différent. Ça, c'est la première chose en termes de design mix. Et les durées d'engagement sont assez spécifiques. Après, ce qui est propre à nous dans notre cas, c'est que comme on est aujourd'hui sur 7 pays en Afrique, on fait beaucoup de cross-selling. Donc, quand on travaille avec un client dans une géographie, on a généralement tendance à travailler avec lui dans 2, 3, 4 géographies.
Tu parlais de design et l'aménagement d'espace, c'était ton ancien métier. Est-ce que dans le coworking que tu opères, il y a aussi ce souci, comme il y a en France, qui caractérise un peu ce métier d'esthétique, d'être comme chez soi? C'est quoi un petit peu le style de décoration et qui intéresse les entreprises?
C'est une très bonne question. Alors nous, notre concept... C'est ce qu'on appelle notre concept de design, c'est African Corporate Cool. Je vous le dis en anglais parce qu'on l'a pensé comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trois mots. Ça veut dire que fondamentalement, on a un produit corporate où on investit beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans la fonctionnalité. Parce que fondamentalement, avant même l'esthétisme, qui est certes très important, il faut bien être conscient que la fonctionnalité et la praticalité des espaces n'est pas forcément donnée dans les géographies dans lesquelles on opère. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très précis. À Lagos, au Nigeria, ville de 25 millions d'habitants, capitale économique du Nigeria, aujourd'hui, on opère un de nos plus grands Africa Works, c'est à peu près 2500 m², c'est à peu près 300 membres tous les jours qui viennent, c'est le siège d'entreprises comme Universal Music, comme TikTok, comme Spotify aussi, qui sont nos membres là-bas. Bon, bah, typiquement là, on a un réseau électrique national qui est tout à fait déficient. Donc, on opère 4 générateurs, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais avec des équipes de facilities management, donc on est tout à fait verticalement intégré. Donc, pour répondre à votre question, nous, dans la manière dont on pense, certes, le look and feel, l'esthétisme est très important, mais ce qui prime avant toute chose, c'est la fonctionnalité, parce que c'est ce qu'on offre et ce pourquoi les clients viennent nous voir. Et donc, on met beaucoup de temps et d'argent à avoir des générateurs en cas de coupure d'électricité dans tous nos espaces. On a 2 ou 3 fournisseurs Internet parce que ça arrive qu'un fournisseur Internet soit déficient. Et donc, ce que l'on offre à nos clients, c'est cette fonctionnalité. Maintenant qu'on a dit ça, évidemment que l'esthétisme est très important et on travaille avec des grands cabinets d'architecture en Afrique du Sud et en France sur ça. Notre ADN, notre concept, c'est African Corporate Cool. On est corporate parce que c'est nos clients. On est cool parce que forcément, c'est un produit qui est sympa, qui doit être attirant, qui doit être pétillant. Et on est aussi africain et on est fier d'être africain. Le nom de l'entreprise, c'est Africa Works. On porte très fier des valeurs d'afro-optimisme. On croit au développement, à l'émergence économique de ce continent qui passe aussi par une esthétique visuelle. Et donc, on travaille énormément avec des artistes locaux qu'on promeut. Donc, par exemple, pour vous donner tous nos espaces communs, ou un ADN africain très important. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que les personnes et nos membres aient l'impression, quand ils rentrent dans nos espaces, savent tout de suite qu'ils sont en Afrique. On n'est pas un produit
aseptisé, qu'on voit partout.
Exactement, qu'on voit partout. J'ai pas envie de se dire, tiens, on pourrait être à Paris, Londres ou Dubaï. Et c'est très bien. On est fiers d'être africain. On est, d'où notre nom. Et on veut porter haut, je veux dire, les couleurs de cet artisanat aussi et de cet esthétisme. Donc, nos espaces communs sont proudly African.
Oui, puis ils sont forts en Afrique du Sud, notamment pour la décoration.
Absolument, absolument. Très forts en Afrique du Sud sur tout ce qui est archi d'intérieur, et puis très forts en Afrique de l'Ouest, par exemple, sur toutes les artisanats. Il y a des tissus absolument exceptionnels avec lesquels on travaille au Sénégal. On fait, par exemple, dans nos espaces à Abidjan, on a retapé des vieilles pirogues qu'on a transformées en canapés. Donc, ça donne une touche et un ADN très fort à nos espaces.
Ok, Greg. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de tes chiffres? Tu nous as donné quelques chiffres sur tes lieux d'implantation, le nombre d'implantations. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de tes chiffres clés?
Absolument.
Et chiffre d'affaires?
Alors, on ne communique pas sur chiffre d'affaires, mais je vous donnerai tous les autres chiffres.
Non confidentiels.
Mais c'est très simple. Donc, nous, on a à peu près 20 000 mètres carrés aujourd'hui sous gestion, dont à peu près 15 000 mètres carrés ouverts et 5 000 mètres carrés en cours d'ouverture. Donc ça, c'est en début 2024. On a vocation à atteindre 50 000 mètres carrés en 2027. Donc ça, c'est notre objectif. Et d'ici 2030, l'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 mètres carrés. Donc ça, c'est ce qu'on a sous gestion.
Fois 5 en 6 ans.
Fois 5 en 6 ans, absolument. C'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, on est complètement en ligne avec ça. Donc on est
avec une notion de marché ou finalement l'offre fait la demande ou inversement?
Alors, c'est une excellente question. Les données, forcément, on opère sur des marchés avec un peu moins de données que d'autres marchés un peu plus matures pour quelques repères de marché. Donc ça reste, si on regarde les 54 pays africains, si on regarde le marché du bureau, qui est un marché historique au sens large, on est sur un marché qui est à peu près bon an mal an de 50 millions de mètres carrés.
D'accord.
Tout type de bureaux, donc Grade P sur du premium. 50 millions de mètres carrés, c'est bon an mal an l'île de France.
Ouais, d'accord.
Donc on a sur une population d'1,4 milliard d'habitants sur 54 pays, on a à peu près la quantité de bureaux que l'on a dans la région parisienne.
Ouais, d'accord.
Donc ça, c'est pour donner quelques grandes tendances. Sur ces 50 millions de mètres carrés de bureaux sur toute l'Afrique, on a 25 millions rien que sur l'Afrique du Sud.
D'accord.
Qui est un marché beaucoup plus mature. Donc on a 25 millions sur l'Afrique du Sud, 25 millions sur l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, pour vous donner quelques repères, Regus, qui est un de nos concurrents forcément sur l'aspect bureau flexible, a 160 espaces, lui, en Afrique, là D'accord. où on en a 20, ouais. et a déjà un peu plus de 100 000 mètres carrés, lui, d'espaces de coworking. Donc, nous, on pense qu'à atteindre 100 000 mètres carrés, c'est tout à fait possible. On est sur aussi un sous-jacent économique où, alors là encore, on parle de 54 pays, où on a quand même certaines régions qui ont des forts taux de croissance, que ce soit l'Afrique de l'Est avec le Kenya, c'est 5 ou 8% de taux de croissance par an. L'Afrique de l'Ouest francophone, c'est 8 à 10% de croissance. Donc, il y a derrière une explosion démographique, une urbanisation, des grands groupes internationaux qui viennent s'implanter.
Qui viennent capter cette croissance ?
Qui viennent capter et contribuer à cette croissance, absolument. Et en fait, nous, on croit beaucoup au phénomène de saut de puce, de leapfrog, comme ils disent beaucoup. Pour ceux qui sont familiers de l'Afrique, ils sont passés de pas de téléphonie à directement téléphone portable.
Oui.
La ligne fixe.
Il y a un saut quantique entre... Et on saute une génération d'infrastructures, en fait.
Exactement. Et donc, nous, notre pari, c'est qu'en fait, le bureau classique, tel qu'on peut l'expérimenter ici en France, il va avoir immédiatement un saut de puce à... peu ou pas de bureau, à directement du bureau flexible et opéré. Et donc, la case, entre guillemets, ou l'étape bureau classique va être assez rapidement sautée. Donc, nous, on se dit qu'aujourd'hui, 20 000 mètres carrés, demain, 2030, 100 000 mètres carrés, c'est vraiment...
C'est
pas du tout... On est sur un rythme aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où on signe entre 10 et 15 000 mètres carrés de développement. Après, il faut les lancer. Pour vous donner quelques chiffres, donc on a une centaine de collaborateurs. On est aujourd'hui sur des marges opérationnelles assez importantes, on fait à peu près 40% d'EBITDA et on double de taille historiquement. Il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas de
double de taille
tous les 12 mois.
Tous les 12 mois, d'accord. Ouais. Tous les 20 ans, double de taille. On est assez fiers de ça.
Non. On double de taille tous les 12 mois. Et après, pour aussi, donc on a notre cœur de métier qui est le coworking. Et là, on vient de lancer littéralement la semaine dernière notre tout premier produit qui est du corporate co-living. Avec l'idée d'avoir un nouveau concept qu'on a appelé la Tour Africa Works, où on va mélanger du coworking et du co-living.
C'est génial.
Là encore, à destination de nos mêmes clients. Donc, vraiment des produits corporate, c'est des produits B2B, en leur disant, voilà, on peut vous aider sur vos besoins immobiliers au quotidien, mais aussi on peut vous aider sur toutes vos équipes en rotation professionnelle. Et donc, on va commencer à opérer de plus en plus des mixed-use, des espaces hybrides, en s'appuyant...
Avec un bail commun, tu pourrais dire, il y a l'équipe L'Oréal et nous, on est capable de les loger aussi pendant 6 mois pour un projet de développement sur les cosmétiques sur tel pays d'Afrique.
Exactement.
Donc là, tu as une offre totalement clé en main.
Absolument.
Ils vont travailler et habiter dans la même tour ?
Alors, ça peut être le cas. En fait, le sous-jacent pour revenir à la raison derrière, c'est que l'essentiel, on s'est aperçu, c'est que l'essentiel de ces économies sont tiré par des projets. C'est moins du récurrent que des projets. Donc, il va y avoir un projet d'infrastructure, un projet d'hydrocarbures. Donc, c'est très project-based. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de grands groupes internationaux qui n'ont pas vocation à avoir de très, très larges équipes sur place, mais qui, dans le cadre de rotations professionnelles, vont faire venir des ingénieurs pour construire un pont, des ingénieurs pour exploiter offshore un puits pétrolier, etc., etc., des consultants dans le cadre des Nations Unies et tout ça. Et en fait, il y a une rotation professionnelle qui se fait. Et aujourd'hui, il n'y a aucune offre professionnelle et structurée en Afrique, hors Afrique du Sud, pour tous ces professionnels qui sont déployés dans les pays africains pour une durée de moyen long terme. Donc aujourd'hui, pour prendre un exemple, je suis ingénieur Total qui va vivre à Dakar parce qu'il y a des projets d'hydrocarbures à la frontière avec la Mauritanie et je suis détaché pendant 3 mois à Dakar.
Avec sa famille? Ah non, sans sa famille alors.
Avec ou sans sa famille d'ailleurs, à la limite, peu importe, parce qu'on a, on a les deux offres. Aujourd'hui, c'est, ça fait aucun sens de rester à l'hôtel parce que, un, ça coûte une fortune, deux, l'expérience est déprimante. D'un autre côté, l'offre structurelle d'Airbnb, pour de multiples raisons, est peu professionnelle, peu sécurisée. Donc, c'est pas vraiment une offre attirante. Donc, aujourd'hui, on se positionne sur les durées moyen-long terme de ces voyageurs qui sont généralement détachés dans ces géographies-là. Et en fait, on leur offre une solution qui est rassurante pour leur entreprise parce que aux normes de qualité, de sécurité internationaux et qui leur offre la possibilité, voilà, de vivre dans notre tour Africa Works, d'avoir des espaces communs aussi, parce que si on reste 3 mois, 6 mois, ben on veut peut-être aller au-delà des 4 murs de sa chambre aussi,
ouais,
même si la chambre est généreuse.
Peut-être avec les autres, etc.
Exactement, il y a tout un aspect programmatique, on fait venir un certain nombre d'intervenants pour parler typiquement du marché de l'art au Sénégal, ou un start-upper qui vient parler de l'émergence de la scène tech en Afrique. Donc il y a une partie un peu programmatique aussi qui vient ouvrir les personnes, les chakras des personnes justement aux réalités
du pays,
exactement, avec la possibilité libre à eux d'aller travailler quelques étages plus bas ou d'accueillir leur réunion ou leur séminaire encore quelques étages plus bas, parce qu'il y a une partie événementielle aussi importante. Maintenant, sur un certain nombre de ces grands groupes, ont eux-mêmes leur propre bureau. Voilà, donc c'est assez flexible et hybride dans l'utilisation. Nous, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on parle à nos clients, c'est ces grands groupes-là, qui sont en train de se développer, qui ont des besoins de bureaux, mais qui ont aussi des besoins de corporate housing. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'y a aucune offre structurée là-dessus. Donc, on vient de se lancer la semaine dernière et pour l'instant, les signaux sont plutôt très positifs.
Tu nous as un peu raconté tes débuts et t'en es pas à ton coup d'essai en termes de création d'entreprise. Et tout se passe très bien, mais il y a forcément eu des embûches, des échecs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées?
Bien sûr. Alors, juste pour en dire un peu plus, moi, sur mon parcours. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce, mais très rapidement, je suis parti à l'étranger. Donc, j'ai commencé en finance à Londres d'abord et après à Hong Kong en fusion et accession. Et après, dès 2011, je suis allé m'installer à Nairobi, qui est un peu la capitale, en Afrique de tous les fonds d'investissement et notamment les fonds d'investissement à impact. C'était le tout début de ces triple bottom line, comme il disait à l'époque. Donc, justement, avec un prisme social et environnemental très fort. Donc, dans ce cadre-là, j'ai fait du fonds d'investissement. Et juste à la suite de ça, j'ai créé ma première entreprise. Et pour la petite histoire, cette entreprise s'appelait Haussmann.
Wow. Oui, voilà. J'ai vu ça.
Génial.
C'est pour montrer l'attachement à la France.
Quel talent, ce Greg.
Je marchais dans vos pas.
Oui. Et c'était pas une de nos filiales.
Je sais pas. Elle a fait faillite, alors je sais pas.
Non, elle a pas fait faillite, mais je l'ai revendue à un groupe sud-africain. Mais voilà, typiquement, ça a été, je dirais, ma première expérience entrepreneuriale dans l'immobilier en Afrique sur une entreprise de prestation de services. Et pour de multiples raisons, je pensais que c'était le bon angle d'attaque d'un secteur qui me paraissait avoir le vent en poupe. Moi, je crois beaucoup aux grands indicateurs
macro,
et les grandes tendances. Et les grandes tendances, c'est quoi africaine? C'est la démographie. Ouais. Moi, je crois beaucoup à la démographie. En 1960, il y avait 200 millions de personnes en Afrique, il y avait 400 millions de personnes en Europe. Donc, c'était un rapport de 1 sur 2. L'Europe était 2 fois plus peuplée que l'Afrique. En 2000, ce ratio était inversé. C'était 500 millions d'Européens et 1 milliard d'Africains. En 2050, ça sera toujours 500 millions d'Européens à 2,5 milliards d'Africains. Donc, on est passé d'un rapport de 1,5 à un rapport de 5.
Ouais.
Et ça, combiné à des mécanismes d'urbanisation très fortes, comme nous, on a pu le vivre dans nos pays au 19e siècle, en fait, ça donne des tendances fondamentales et des lames de fond. Et ça, forcément, quand on analyse ça, et je pense que la démographie, on ne peut pas parler d'Afrique sans parler de démographie, forcément, il y a un sous-jacent immobilier qui est très fort. Et donc, très rapidement, je me suis posé sur plus la chaîne de valeur bureau. Et pour revenir à ta question, bah, j'ai passé 5-6 ans à développer ce groupe qui faisait du design build, donc des solutions de bureau clés en main, là encore pour le compte de multinationales. Et bah, c'est passé par, ça allait plutôt bien jusqu'à ce que le Covid arrive. Et bah, là, ça a été... Ouais, ça a été un peu moins bien parce que vous pouvez imaginer que de multiples niveaux, niveau du business, c'était très dur parce que plus aucun groupe...
Les chaînes de valeur étaient coupées,
Le coût de l'aménagement avait explosé. Donc, nous, ce qu'on vendait, c'était des prix fixes. Donc, en fait, on prenait le risque de marge.
Et donc, dans ce cas-là, on s'est pris des bananes.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est autant dire dans un contexte aussi anxiogène où tout le monde avait un peu perdu sa boussole. Faire des bureaux en Afrique, c'était à peu près la dernière des priorités. Je vous passe les questions d'un payé et d'un vendu. Et puis moi, je me suis retrouvé, parce qu'on parlait de plus d'un parcours personnel, je me suis retrouvé avec une équipe de plus de 200 personnes, parce qu'on avait beaucoup grandi entre 2015 et 2020, dans un contexte où il n'y avait aucun soutien des autorités gouvernementales locales. Donc, c'est se retrouver dans un contexte de Covid à licencier par Zoom ou Visio 150 personnes, aucun furlough, on n'a aucune aide gouvernementale, aucun client nous paye, on n'a aucun projet. Nous, on n'a encaissé aucun euro pendant 6 mois. 6 mois, il n'y a pas un euro qui est rentré dans un compte bancaire. Voilà, ça, c'est des moments qui forgent et qui sont durs parce que, devoir se séparer de super collaborateurs qu'on avait formés. J'ai quelques discussions qui m'ont beaucoup marqué en tête de femmes dans leur trentaine qui élevaient seules leurs enfants et qui disaient moi j'ai pas de chômage, je vis dans des pays où il y a pas de chômage, j'ai pas d'aide d'État, c'est moi qui paye l'école. Est-ce que ça veut dire que je retire mon enfant de l'école? C'est des choses qui sont très poignantes et qui marquent. Et voilà, et donc ça c'était un moment très dur à titre personnel et qui m'ont aussi beaucoup appris sur notre responsabilité en tant qu'entreprise en Afrique, qui à mon sens est une responsabilité tout à fait différente de ce que la responsabilité est une entreprise en Europe.
France ou en Europe, où il y a un terreau de protection qui est des filets de sécurité dans tous les sens.
Exactement. Et en fait, tous les filets sociaux qu'on peut expérimenter en France, c'est le rôle de l'entreprise de les avoir en Afrique parce qu'il y a un État, ça va dépendre des pays,
qui est plus ou moins défaillant,
en tout cas qui est beaucoup moins présent. Et donc, il y a un rôle social et sociétal beaucoup plus important. Et donc, c'est un rapport et un rôle de l'entreprise qui est assez différent.
Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ton premier client?
Oui, alors mon tout premier client d'Africa Works, c'est drôle, c'est L'Oréal. Notre tout premier, donc plutôt un des très beaux clients. Quand on a ouvert, pour remettre ça un peu dans son contexte, on a ouvert notre premier espace à Abidjan, dans un quartier qui s'appelle Marcoury, pour ceux d'entre nous qui sommes familiers avec Abidjan. Et L'Oréal, dès le début, a accroché avec le concept et nous a fait confiance et nous a fait l'honneur de mettre son siège en Côte d'Ivoire chez nous. Et donc, ça a été une grosse étape parce que premier client L'Oréal, magnifique client.
Sa signature est déjà un vecteur de marketing fantastique.
Exactement. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on a construit une marque. Aujourd'hui, nous, Africa Works, on est en train de pivoter notre modèle économique où, au tout début, on avait un modèle économique finalement assez proche de celui de WeWork où on prenait l'essentiel des risques. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un modèle économique plus proche de l'hôtellerie où on est sous forme de contrat de gestion. Et donc, pour faire ce pivot entre un modèle risqué et un modèle assez dérisqué de gestion, il faut avoir forcément une marque très forte. Et donc, sur les 5 dernières années, on s'est vraiment passé beaucoup de temps à déployer cette marque et donc s'associer et avoir des clients aussi prestigieux que L'Oréal, que Spotify, que TikTok, que tous ces grands groupes-là. Ça nous a évidemment permis de lancer une marque qui, aujourd'hui, inspire confiance, de sorte que plein de partenaires à travers l'Afrique sont prêts à prendre, eux, les risques et à nous choisir aujourd'hui, Africa Works, en tant que opérateur.
Vous êtes de moins en moins risqué finalement.
On est de moins en moins risqué parce qu'on a.
Il y a déjà des clients qui ont vécu et donc vous pouvez presque mettre en relation les nouveaux clients prospects avec les anciens en disant appelle L'Oréal, vois comment ça se passe.
Donc, Exactement. Donc aujourd'hui on est vu et perçu comme un vrai partenaire de confiance auprès de nos clients existants. Je vais pas vous bombarder de chiffres, mais on a un taux de satisfaction de 94%, donc on a quasiment pas de churn, donc on a peu ou pas de clients qui nous quittent. Donc on investit évidemment énormément sur la satisfaction client qui est essentielle pour nous. Et après, il y a un mécanisme très simple de bouche à oreille et de recommandation parce que personne nous appelle maintenant parce qu'ils savent que telle entreprise ou telle autre entreprise est venue. Après, ce qui est intéressant parce que nous, on a au final deux types de clients. on a nos clients qui utilisent nos espaces. Et puis aussi, on a un certain nombre de partenaires qui sont nos partenaires de croissance avec lesquels on déploie la plateforme AfricaWorks à travers l'Afrique, avec lequel on ouvre de nouveaux espaces. Quelques-uns sont des institutionnels, mais la plupart sont des family office locaux qui ont de l'immobilier et qui cherchent à monétiser cet immobilier-là. Et donc aujourd'hui, comme tu le disais, on a le track record pour dire, voilà, ça fait quasiment 5 ans qu'on est en opération. Voilà nos unit economics. Voilà, on peut sortir en fonction des pays, du 30 à 70% d'EBITDA. C'est à peu près le type de range que l'on regarde. Voilà le type de retour qu'on peut générer par mètre carré. Voilà notre phase de lancement en termes de durée. Et on est capable de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, sur la base de plus de 20 espaces, en ouvrant nos books, sur la base de 8 villes, on est capable de quasiment vous garantir un retour par mètre carré qui est deux fois supérieur à ce que vous feriez si
en louant directement.
En louant directement, et votre payback, enfin votre phase de retour, c'est moins de 9 mois. Donc voilà, on commence à avoir quelques métriques qui fait que aujourd'hui, quand
on
s'adresse
attirer du mètre carré à opérer entre guillemets sous l'égide d'AfricaWorks.
Absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on a justement atteint cette masse critique et cette confiance qui permet de dire voilà, on arrive. Quand on dit à quelqu'un, tu veux faire deux fois plus d'argent et t'as ton retour en 9 mois, généralement c'est une vente qui est
assez simple,
qui est plutôt facile.
Et donc, quand est-ce que vous passez à l'étape où vous allez acheter vos propres actifs immobiliers ou les développer pour devenir comme tout bon opco devient propco un jour?
Ouais, bah c'est une excellente question parce que c'est maintenant. Ah, bon, c'est littéralement aujourd'hui, aujourd'hui ou vraiment dans les tout prochains mois. Donc on a une stratégie propco assez simple. On a voulu consciemment et intentionnellement se concentrer sur l'opco les 5 premières années parce que c'est déjà pas facile, comme vous pouvez l'imaginer, de créer un opérateur dans 7 villes distribuées.
C'est plus dur déjà d'être bon en opco avant de passer à la propco.
Et qui plus est dans 7 villes en Afrique.
Qui ne se ressemblent pas tout à fait, avec des marchés très différents.
Exactement, des marchés différents, des équipes qui doivent être différentes, des juridictions différentes. Donc on s'est vraiment consacré en disant, il y a une première phase du projet, les 5 premières années, on crape l'opco. Ouais. Voilà, on a aujourd'hui, on peut le dire que ça marche très fort pour nous, donc on est arrivé à la fin de cette première phase, et on ouvre la deuxième phase qui est de se dire, ok, on va faire maintenant une propco. Et alors, comment on va le faire? Donc, nous, on veut le faire sur deux géographies principales. La première géographie, c'est l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, Dakar et Abidjan, pour de multiples raisons dont on pourra éventuellement en revenir. La deuxième géographie, c'est l'Afrique du Sud, plus particulièrement le Cap. Et en fait, nous, on suit une stratégie assez inspirée de l'hôtellerie et notamment d'un groupe hôtelier que on connaît tous, qui s'appelle le Mandarin. Nous, notre idée, c'est derrière de faire quelques flagships, de faire quelques espaces qui soient vraiment notre vraie carte de visite pour montrer tout notre savoir-faire. Et derrière, monter un portefeuille immobilier et une foncière, indirectement, ça nous permettra aussi de monétiser ça sous forme de contrat de gestion. Donc aujourd'hui, on n'a pas vocation à détenir l'intégralité de nos murs. On a vraiment l'intention, c'est de développer en Afrique de l'Ouest francophone parce qu'il y a aujourd'hui rien à racheter qui répond à nos besoins et à nos standards, exactement. Donc, on va probablement développer en propre à Dakar et à Abidjan, et ça avec probablement une première opération d'ici la fin de l'année. La semaine dernière, j'étais à Dakar pour identifier justement des terrains, des opérations de relativement petite taille, 5 à 7 000 mètres carrés, justement en mixed use, donc avec une diversité des espaces, du coworking, du co-living, des espaces événementiels et un certain nombre d'espaces de restauration. Et pour notre stratégie, un tout petit peu différente pour l'Afrique du Sud aussi, le Cap est vraiment une ville lifestyle, probablement la capitale lifestyle de l'Afrique. Je dirais que c'est un peu le Los Angeles de l'Afrique. Non, parce qu'il y a un certain nombre de similitudes, même dans la végétation. Et donc, avoir une présence très forte là-bas a une vraie valeur pour notre marque. Qui plus est, c'est une ville qui, post-Covid, est en pleine explosion, parce qu'en fait, finalement, il y a plein de digital nomades européens qui viennent passer l'hiver européen en Afrique du Sud. Donc, plus particulièrement au Cap. Et donc là, on a une volonté aussi de faire une propco, mais là, plus sous forme d'acquisition, parce qu'il y a un certain nombre de projets sur lesquels on s'est déjà positionné. Donc voilà, et vraiment, c'est la stratégie Mandarin de se dire, on aimerait à horizon 2030, puisqu'on en revenait sur les chiffres, si on se dit qu'on opère à peu près 100 000 mètres carrés en 2030, on aimerait en avoir 20 ou 30 000 mètres carrés, entre 20 et 30% de notre portefeuille
en position détenu.
Exactement. Ouais.
On est chez Haussmann, alors on a forcément envie de parler de ressources humaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes enjeux RH et comment tu attires les talents dont tu as besoin?
Oui. Alors moi, c'est ma grande passion. Je passe à peu près 30% de mon temps sur les sujets RH. J'adore ça. Et je pense que dans une autre vie, j'aurais dû être DRH
ou chasseur de tête,
exactement.
Tu as déjà travaillé chez Haussmann.
Voilà. c'est le sujet parce que nous, on opère voilà, on a, je pense, la marque, c'est bon, le produit, c'est bon. On connaît de manière très intime et très granulaire nos géographies, les villes, les quartiers, les rues. Voilà, on a une très, très bonne compréhension de ces environnements-là. Donc aujourd'hui, nos équipes, nous, on est à peu près donc, une grosse centaine de collaborateurs. Rien qu'en 2024, on va doubler de taille. Donc on est en train de recruter une centaine de collaborateurs cette année à tous les niveaux. Avec, il y a quelques grands principes pour nous qui nous animent. On cherche, bah, évidemment, que des équipes locales. Donc, l'équipe à Dakar, c'est des Sénégalais. L'équipe à Abidjan, c'est des Ivoiriens. L'équipe au Nigeria, c'est des Nigérians. Avec une vraie promotion des talents. Donc, nous, on a une structure assez similaire. On emploie essentiellement des femmes. 74% de nos collaborateurs sont des collaboratrices. Pour de très multiples raisons, je crois beaucoup à la femme africaine. Et nous, on a des profils, j'ai de très nombreux cas de femmes, généralement dans la trentaine,
ouais,
qui sont des
qui
stars.
Qui sont incroyables.
Ah, mais qui sont exceptionnelles. Ouais. Et qui, donc nous, on recrute beaucoup dans la trentaine, beaucoup de femmes, et on a créé une culture d'entreprise qui n'est pas évidente parce que c'est une culture d'entreprise complètement décentralisée.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de siège où on regroupe toutes nos équipes, donc on n'a pas la capacité de faire passer l'ADN de la, ouais, boîte autour de la machine à café le lundi matin, c'est quelque chose qu'on n'a, ouais, pas. Donc on est décentralisé avant tout, et on est 14 nationalités différentes.
Ouais.
Et 14 nationalités différentes pour créer de la cohésion et de l'esprit d'équipe et avoir un vrai ADN Africa Works, on en est obligé de revenir à nos valeurs et notre purpose et notre raison d'être. Et donc, on insiste énormément sur ça parce que notre raison d'être est essentielle à ce que l'on fait. Et en fait, c'est fondamentalement le dénominateur commun entre nos équipes de comptabilité, exactement, à Maurice, tous les métiers. On parle, voilà, de Mauriciens, de Zambiens, de Zimbabwéens, de Sud-Africains, de Nigérians, de Kenyans, de Sénégalais, qui sont encore aussi différents que des Suédois, des Portugais ou des Grecs. Et donc, cette idée de créer ce socle commun et cet ADN pour que tout le monde tire dans la même direction, voilà, c'est quelque chose qui nous anime, qui nous prend, sur lequel on est très, très passionné. Moi, j'adore ces enjeux-là. Parce que aussi, ce dont on s'est aperçu, et sans rentrer dans des poncifs ou des images d'Épinal, c'est que la force de la relation en Afrique et la valeur de relations humaines est probablement supérieure, ou en tout cas mieux valorisée qu'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, et moi, c'est toujours en tant que Français européen, à chaque fois que je suis, bah, toutes les semaines, je suis dans les avions pour aller voir une de nos filiales, et je passe toujours au moins un ou deux jours à juste rencontrer nos clients et nos membres. Et ce qui me revient toujours, c'est bien sûr qu'on est chez vous parce que vos espaces sont bien situés, bien sûr qu'on est chez vous parce que c'est bien designé, parce que c'est bien opéré, parce que c'est au bon prix, bien sûr tout ça. Mais ce qui revient toujours, quelles que soient les géographies, c'est vos équipes sont géniales. Et si vous bougez votre community associate à l'autre bout de la ville, je suis quasiment prêt à la suivre à l'autre bout de la ville. Et donc, l'humain est vraiment au cœur même de notre ADN, nous, en tant qu'entreprise, mais au cœur de notre processus de vente aussi et de notre fidélisation de nos clients. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps justement à dénicher ces talents, à les fédérer et à leur transmettre l'ADN Africa Works pour que derrière, non seulement ils restent avec nous et grandissent avec nous, et surtout, ils génèrent de la satisfaction client.
Alors Greg, quand on s'était rencontré, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est de dire finalement on accueille des entreprises internationales qui ont besoin de beaucoup d'autres services. Donc là, tu vas en proposer un qui est de dire on peut loger aussi vos collaborateurs et tu avais un plan d'action qui est de dire mais finalement il y a beaucoup de services qu'on peut leur fournir. Et la deuxième question, alors je ne sais pas si les deux questions peuvent être une seule et même réponse, mais tout à l'heure tu parlais de digital nomade et je me disais qu'à partir de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à créer qui serait une marque mondiale et de sortir de l'Afrique finalement, voilà, et de se dire finalement il y a probablement un point de connexion dans des pays comme l'Afrique du Sud, entre peut-être l'Amérique du Nord ou l'Amérique centrale et l'Afrique.
Absolument. Eh ben, écoute, c'est complètement dans notre plan dans notre vision. Alors, c'est une vision qui s'inscrit pour le coup à moyen long terme. Nous, on commence par l'immobilier, c'est sûr, mais je pense qu'Africa Works a vocation à être beaucoup plus que de l'immobilier. Aujourd'hui, alors nous, on le pense en anglais, je vais le dire en anglais, vous m'excuserez. Notre raison d'être, donc notre purpose, is to unlock Africa's potential through work. Et donc nous, comment on fait ça? Nous, notre ambition chez Africa Works, c'est de dire aujourd'hui, on aimerait que le climat des affaires en Afrique soit aussi bon que ce que ça peut être à Singapour ou en Suisse. Et pourquoi? Parce que ultimement, nous, notre raison d'être, c'est de pouvoir créer un écosystème qui soit favorable à toutes les entreprises, que ce soit les entreprises, les petites startups, les grandes startups, les PME, les grands groupes internationaux. On aimerait créer un écosystème et un environnement qui soit propice à faire des affaires et à faire grandir des affaires. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que derrière, j'en reviens à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est l'enjeu démographique. On a un enjeu démographique avec, voilà, la population africaine va à peu près doubler. On est sur, juste pour donner quelques chiffres, c'est un truc très important, l'âge médian africain, c'est 19 ans. Donc, on parle de 600 millions d'emplois qui doivent être créés dans les 20 prochaines années en Afrique. On parle de 600 millions d'emplois. Alors, on n'a pas du tout la prétention de dire que nous-mêmes, on va créer 600 millions d'emplois. Mais 500 millions, c'est déjà pas mal, exactement. Mais on peut se dire, aujourd'hui, faire des affaires en Afrique, c'est pas facile. Et on s'est dit, voilà, nous, notre plan, et on a une vraie vision 2050, c'est de dire comment on contribue à créer nous-mêmes Africa Works, mais à fédérer un écosystème. Aujourd'hui, je vous disais, on est 1000 entreprises, on sera 2000 entreprises dès l'année prochaine et chaque année, on va grandir. Et comment on s'appuie, on leverage ce réseau d'entreprises pour, en fait, créer une plateforme qui rende le climat des affaires favorable en Afrique. Moi, mon rêve, c'est de me dire, en 2050, voilà, je vais au Rwanda faire des affaires ou je vais en Afrique du Sud faire des affaires ou je vais même au Nigeria faire des affaires et c'est aussi simple que Singapour. Et donc, je vais créer mon entreprise, je vais faire grandir mon entreprise. Et donc, bien sûr que là, l'immobilier, on pense comme l'infrastructure, on pense comme la fondation de cet immeuble. C'est ce par quoi on a commencé, mais on a vocation à terme à faire beaucoup plus. Et à terme, c'est en fait dès l'année prochaine parce qu'on y travaille déjà. On est en train de créer une plateforme qu'on a appelée Africa Work Services, qui est en fait une plateforme B2B qui s'adresse d'abord à nos membres et à nos clients, donc aux 1000 entreprises qui sont membres, mais qui ont vocation à ouvrir de manière plus large. Et en fait, ça va nous permettre de créer des entreprises, par exemple, très facilement avec trois clics en disant, voilà, moi, je suis à Paris, je vais créer ma filiale, je sais pas, en Tanzanie. Donc, ça va être incorporer une entreprise très facilement, s'enregistrer auprès des impôts très facilement, trouver le bon comptable, le bon avocat qui nous permette de faire ça. Donc, il y a toute une plateforme, une suite, je veux dire.
C'est comme une suite logicielle avec des briques qui permettent d'être à tous les étapes ou à tous les étages de la fusée.
Exactement. Donc ça, c'est l'étage serviciel. Ça, c'est le deuxième étage. À un moment, mais ça, c'est plutôt à horizon 2 ou 3 ans, il va y avoir un étage justement tout autour des RH, parce que c'est un enjeu essentiel. À la fois de recrutement, mais de formation. Et donc, il y a un moment où on aura vocation à se positionner sur cette chaîne de valeur. Comment, quand, je le sais pas, mais on a vocation à faire ça. Mais voilà, c'est aussi, j'en viens, on fait très attention à faire les choses step en séquence, step by step. On essaye de faire les choses bien parce que derrière, voilà, on est sur des géographies avec quand même un certain nombre de volatilités, de risques. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est très concentré sur ces fondations de cette fusée ou ces fondations de cet immeuble. La fondation, c'est ce qu'on pense, c'est vraiment le hardware. Quand on est en train de construire le hardware. Une fois que le hardware sera construit, une fois que l'ordinateur sera construit, on passera au software. Et une fois qu'on aura le software, ben on passera à l'Apple Store. Où là, derrière, c'est comment on rend possible, on leverage notre écosystème pour qu'eux-mêmes aient un impact positif. Et c'est comme ça qu'on se dit, voilà, horizon 2050, voilà comment nous, on pense jouer un rôle et contribuer justement à la création. Notre ambition, c'est de contribuer directement et indirectement à la création de dizaines de millions de jobs d'ici 2050.
Et est-ce que tu peux nous citer un mentor, si tu en as eu un, et aussi une proptech qui t'inspire?
Alors, j'ai pas particulièrement de mentor.
Vous m'en excuserez. T'as grandi tout seul.
Non. Mais à la fois, j'ai beaucoup de mentors. Mais d'un point de vue business, si j'ai mon frère avec lequel j'échange beaucoup. Mais voilà, donc on est très proches et on fait nos affaires ensemble. Même si lui est dans un autre secteur, dans une autre géographie, donc il n'a rien à voir.
Mais t'es aussi son mentor finalement. C'est plus
un partenaire. Oui, en fait, c'est un échange, c'est un sparring partner. Quoi. C'est plus comme ça. Donc oui, je citerai quand même mon frère. Je lui rendrai hommage à ce titre-là. Et en termes d'entreprise qui m'inspire, je dois vous avouer que moi, WeWork, qui certes n'a pas bonne presse pour des questions économiques, je trouve une entreprise par ailleurs complètement formidable parce que c'est probablement au-delà, si on met de côté un modèle économique, les excès, le modèle économique qui marche pas et ça, tous les hôteliers le savaient.
Ils sont peut-être allés trop vite aussi.
Ils sont allés trop vite, mais ils faisaient partie d'un, ils ont été pris dans un narratif qui est un narratif américain
de croissance,
d'hyper-croissance et a winner takes all type of approach. Ça fait aucun sens, un winner takes all type of approach quand on est une boîte qui n'est pas une boîte de software. Donc, on l'a vu, ils ont été pris dans ce narratif-là, ils ont fait plein d'erreurs. Mais si on met ça de côté, on les connaît tous, les erreurs et les défauts du modèle, je trouve que c'est quand même la première marque qui a émergé dans le domaine du bureau. Ça, c'est la première chose, avec une vraie compréhension des tendances en disant le bureau n'est plus seulement un endroit un peu boring, statique, un peu old school. Ça doit être une vraie expérience. C'est les premiers qui ont pensé le bureau comme expérience. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Qui ont créé une marque qui est quand même, avec un produit, on peut tout dire, mais qui est quand même très bon et qui est un produit mondial. Après, leur modèle économique, les excès, on les connaît, mais j'ai beaucoup de respect quand même pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont quand même très bien fait. Bon, là, ils ont un peu moins bonne presse en ce moment, mais je regarde toujours, moi, ce qu'ils font. Et surtout, ils ont été très intelligents dans la manière dont ils ont construit leur marque, parce que ils ont compris l'importance de la marque. Et donc, c'est là où il y a l'aspect hôtelier, l'influence hôtelière est très importante. Ils ont compris que c'était le nouveau Marriott du 21e siècle dans le bureau ou Accor ou je ne sais quoi. Et ils ont réussi à s'appuyer sur un narratif finalement très start-up, parce que c'est comme ça qu'ils se sont lancés. C'était la tireuse à bière avec le gars un peu cool et tout, là où fondamentalement leur modèle économique était plus autour des grands groupes. Et donc, ils ont de manière très intelligente réussi à construire avec cette marque.
Un décalage de style, en fait. Hein.
Exactement.
Ils ont joué sur le décalage de style qui a très, très bien marché au début. C'était
absolument
fantastique au début.
Absolument.
Bah écoute, Greg, ce podcast arrive à son terme. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui ?
Non, pas particulièrement, mais pour tous nos auditeurs, peut-être le seul message, comme vous l'avez pu comprendre, je suis assez passionné par le continent africain. Et donc, pour tous ceux qui ont le moindre intérêt pour ce continent, je vous encourage à regarder ce qui se passe, soit dans l'immobilier, soit dans tous les secteurs. La presse, généralement, ne rend pas hommage, j'irai toujours, ou les titres sont pas forcément toujours très positifs, mais ce qui se passe aujourd'hui sur ce continent est absolument extraordinaire. Et je pense qu'une partie de notre avenir collectif mondial s'écrit aussi en Afrique aujourd'hui.
Merci Greg.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.